Vous écoutez, on lit pour vous.
Être jeune et noir au Québec. Un dossier de Suzanne Colperon et Maïssa Ferrat paru le 13 avril 2025 dans la presse. Si l'ombre des injustices demeure, l'art et l'engagement révèlent un peu de lumière. Le portrait des jeunes noirs d'ici, que dévoile un important sondage mené par Léger pour le compte de l'Observatoire des communautés noires du Québec, est fait de contrastes. La presse est allée à la rencontre de ceux qui incarnent cette génération. La jeunesse noire sous la loupe. Le plus vaste sondage jamais réalisé auprès des jeunes noirs de 15 à 34 ans au Québec, mené par Léger et l'Observatoire des communautés noires du Québec, révèle une réalité faite de contrastes. Ambition et injustice, engagement et précarité, espoir et désillusion. Portrait d'une génération qui avance malgré tout. Un système perçu comme injuste. Pas moins de 66% des jeunes noirs disent avoir été victimes d'un traitement injuste dans leurs interactions avec les services publics, que ce soit en santé, en éducation ou en justice. En comparaison, ce taux chute à 19% dans le groupe contrôle, composé de jeunes non-noirs vivant au Québec. C'est bouleversant de voir ces résultats, affirme Édouard Stacco, président du sommet Jeunes Afro et du conseil d'administration de l'Observatoire des communautés noires du Québec. Comment quelqu'un peut-il réussir s'il perçoit que son gouvernement le traite de façon inéquitable? L'écart entre les deux groupes est disproportionné. DPJ, des jeunes davantage signalés. 15% des jeunes noirs ont déjà été en contact avec la DPJ, une proportion presque identique au groupe contrôle, 14%. Mais la nature du contact diffère. Les jeunes noirs sont plus souvent les sujets de signalement, alors que les autres sont davantage à l'origine de ceux-ci. Cette distinction renforce les données de recherche existantes sur la surreprésentation des jeunes noirs dans les signalements à la DPJ. Discrimination. Une réalité omniprésente. En tout, 83% des jeunes noirs disent avoir subi de la discrimination liée à leur identité, plus du double du groupe contrôle, 40%. La question de la discrimination envers les jeunes noirs est déjà documentée dans la littérature, rappelle Belinda Ba, directrice de l'Observatoire des communautés noires du Québec. On a des exemples qui montrent que c'est encore d'actualité, donc c'est sûr que les chiffres corroborent ça, mais ce sondage nous permet de mesurer l'ampleur du phénomène. Entrepreneuriat, de l'intérêt, peu d'accès. Malgré les obstacles, l'entrepreneuriat suscite un intérêt certain. Toutefois, seuls 18% des jeunes noirs disent bien connaître les occasions. Ce taux grimpe à 41% chez les anglophones, à 28% chez les hommes et à 25% chez les personnes nées au Canada. Le groupe contrôle, lui, atteint à peine 11%. C'est une très bonne nouvelle. Les jeunes noirs pensent à l'entrepreneuriat, à se prendre en main, note Édouard Stacco. Mais l'accès à l'information et aux ressources reste inégal. Des revenus insuffisants pour la moitié. À peine 45% des jeunes noirs estiment leurs revenus suffisants pour vivre décemment, un taux bien inférieur à celui du sous-groupe des jeunes noirs nés ici, 69%, et du groupe contrôle, 75%. C'est une des données choquantes du sondage, souligne M. Stacco. À peine un jeune noir sur deux considère ses revenus comme suffisants. Un accès aux études, mais à quel prix? Quelque 70% des jeunes noirs fréquentent un établissement scolaire, une proportion plus élevée que dans le groupe contrôle, 59%. Mais l'accès ne garantit pas la réussite. Seulement 44% bénéficient d'un soutien financier, ce qui pousse plusieurs à s'endetter. on les retrouve dans les écoles, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on les retrouve dans les diplômes, prévient Gina Lafortune, professeure à l'UQAM. L'enjeu de la diplomation demeure. Une jeunesse engagée. Les jeunes noirs se distinguent par leur engagement. 78% participent à au moins une organisation. Cet engagement est surtout communautaire, culturel ou sportif, même si leur présence reste plus discrète dans les milieux économiques structurants comme les syndicats ou les associations professionnelles. Ça vient défaire un préjugé, affirme M. Stacco. Oui, les jeunes noirs adorent le sport, mais comme les autres, ils sont aussi impliqués dans la culture. À la Maison des jeunes, l'Ouverture, à Montréal-Nord, la directrice chez La Fortunée constate cet engagement au quotidien. Pour moi, ils sont toujours impliqués, que ce soit au comité jeunesse, au conseil d'administration ou comme bénévoles. Souvent, ce sont eux qui viennent vers nous pour offrir leur aide. Espoir en l'avenir. Malgré les obstacles, 46% des jeunes noirs disent avoir une confiance élevée en l'avenir des communautés noires. Leur degré de confiance est presque équivalent à celui des jeunes non-noirs, analyse M. Stacco. C'est un message profondément rassurant. Ils réagissent comme des jeunes, tout simplement. Une lecture partagée par Belinda Ba. On se retrouve face à des jeunes du Québec qui vivent leur citoyenneté positivement. Méthodologie. Le sondage a été réalisé par la firme Léger entre le 26 août et le 15 octobre 2024. Il repose sur les réponses de 1463 jeunes âgés de 15 à 34 ans, dont 961 s'identifient comme noirs. Les résultats ont été comparés à ceux d'un groupe contrôle de 502 jeunes non-noirs, qui inclut aussi des personnes issues de la diversité. Vous écoutez « Être jeune et noir au Québec », un dossier de Suzanne Colperon et Maïssa Ferra, paru le 13 avril 2025 dans La Presse. On mérite notre place. Ils s'appellent Émilie, Audney, Sandrine, Jean-Philippe, Janice, Nadouine. Ils sont nés ici ou ailleurs, mais tous construisent leur vie au Québec. Leur récit incarne les défis d'une génération noire en quête d'espace, de reconnaissance et d'avenir. Donne-moi juste la chance. Arrivé de Côte d'Ivoire à 18 ans pour étudier à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, Jean-Philippe Sinte a connu un parcours semé d'obstacles. Sans famille ni réseau, il a enchaîné les petits boulots, saisi de données, caissier, travail d'entrepôt après son baccalauréat en finance. Ça m'a pris 4 ou 5 ans avant de trouver un emploi à la hauteur de mes compétences, dit-il. Je ne suis pas dans la peau d'un blanc, mais je pense que ça aurait pu être différent. Aujourd'hui, à 29 ans, il travaille chez Hydro-Québec et a fondé Bobel, une application qui facilite l'accès aux soins personnels à domicile. L'idée, développée pendant son MBA en gestion numérique, s'est transformée en outil d'inclusion sociale, en particulier pour les aînés, les parents à la tête de famille monoparentale et les personnes en situation de handicap. Jean-Philippe espère aussi que Bobel deviendra une porte d'entrée professionnelle pour les nouveaux arrivants. Ce n'est pas un hasard. Selon le sondage Léger mené auprès des jeunes des communautés noires du Québec, seulement 18% disent bien connaître les occasions entrepreneuriales et 41% jugent leur revenu insuffisant pour vivre décemment. « Donne-moi juste la chance, dit-il. » Je vais te montrer que je mérite ma place. Être artiste, malgré tout. Nadouine Dara Muscada, 25 ans, est une artiste. Elle chante, elle écrit, elle monte sur scène. Mais à la veille de la fin de son baccalauréat en communication, elle doute encore. Je me retrouve dans un espace où je me dis, est-ce que je vais être artiste ou pas? Né en Haïti, arrivé au Québec à 13 ans, elle a très tôt découvert l'écriture, les poèmes, les scénarios. Au secondaire, elle proposait des spectacles lors des journées multiculturelles. Aujourd'hui, elle avance seule. Les 5 dernières années, c'est moi qui ai tout financé, tout produit. J'ai ce rêve, mais je n'ai personne pour me guider. Son nom d'artiste, Reine Dara, reine en créole, reflète sa fierté, mais elle est lucide. « Je suis une femme noire, » dit-elle. « T'es vue comme ça d'abord, avant même qu'on te voie comme une artiste. » Selon le sondage, 30% des jeunes noirs pratiquent une activité artistique à des fins professionnelles, mais seulement 40% d'entre eux ont déjà reçu un soutien financier public. Pour les femmes, les obstacles sont encore plus nombreux. Malgré tout, Nadwin persiste. « Il n'est pas question que j'arrête de chanter. C'est ma vie. C'est tout ce que je fais. » Il voulait me donner un casier. À 28 ans, Odney Charles est à la tête d'une entreprise de nettoyage commercial qu'il a fondée en 2019 après avoir quitté le cégep. On offre des services à tous les types de commerces, entrepôts, garderies, centres sportifs, tours de condo. Je faisais déjà ça quand j'ai quitté le cégep, alors je voyais que c'était facile à reproduire, explique-t-il. Né en Haïti, Odney est arrivé au Québec à l'âge de 2 ans. Il a grandi à Montréal-Nord, puis a fréquenté l'école secondaire Jean Groulx à Rivière-des-Prairies. Mes parents ne voulaient pas que j'aille à une école de Montréal-Nord, de peur que je prenne un mauvais chemin. Mais la réalité, c'est qu'à Rivière-des-Prairies, c'était la même chose. Le basketball a occupé une grande place dans sa jeunesse. « Le sport, ça m'a vraiment aidé, » dit-il. « Tu développes une discipline. Tu sais que tu dois rester focus. » Odney se décrit comme une personne positive, travaillante. Mais il lui est arrivé de vivre de la discrimination. Il se souvient d'un événement survenu pendant qu'il se rendait à un examen au cégep. « J'ai vu un chien au loin, et moi j'ai peur des chiens. Donc au lieu de marcher sur le trottoir, je marchais dans la rue. » Des policiers l'ont suivi. Ils m'ont dit « Pourquoi tu ne marches pas sur le trottoir ?» J'ai dit que j'ai peur des chiens. Ils ont commencé à me poser plein de questions et m'ont donné une amende. Ils disaient que je ne voulais pas collaborer. Ils m'ont littéralement fait embarquer dans leur voiture et m'ont ramené chez mes parents. Ils voulaient me donner un casier pour entrave à la justice. Une des raisons qu'ils m'ont données, c'est que je ressemblais à quelqu'un qu'ils recherchaient. Malgré tout, Odney continue d'avancer. Son regard est tourné vers l'avenir. Dans 5 ans, je veux être dans le repreneuriat. Parce que bâtir une entreprise, c'est extrêmement difficile. Honnêtement, je ne pense pas que je le referai, mais racheter une entreprise pour quelqu'un comme moi, c'est une meilleure option. L'environnement dans son ADN. Franco-camerounaise, Janice Ngankwe est arrivée au Canada il y a 6 ans à 27 ans. Elle accumule les petits boulots jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi stable dans une institution financière. C'est en 2023 que le déclic se fait. Son amour pour la mode et son intérêt pour la cause environnementale se matérialisent dans Janice Stevia, sa propre marque de sac à main végétalien. Tout est conçu avec des produits recyclés dans le plus grand respect de l'environnement. Nous ne sommes pas souvent présentés ainsi, mais la nouvelle génération de jeunes noirs a à cœur les questions environnementales. Notre implication passe parfois inaperçue car elle est différente, explique la jeune maman de Saint-Apollinaire. Protéger l'environnement est au cœur de la culture africaine, plaide-t-elle. Défendre l'environnement n'est pas une action performative, mais une valeur ancrée dans ses habitudes de vie. Très jeune au Cameroun, on apprend à prendre soin de la terre qui nous nourrit. On apprend quelles plantes peuvent nous guérir et comment les protéger. Le recyclage est un réflexe en Afrique dans plusieurs familles où il est très rare de jeter les choses. On va plutôt les réutiliser ou les réparer. « Si on a une bouteille d'eau, dit-elle, dès qu'on la termine, on met de l'huile dedans. Encore aujourd'hui, je fais attention à l'utilisation de l'eau, de l'électricité. Réutiliser et réparer un objet brisé au lieu de le remplacer, c'est imbriqué dans notre culture. » Sa manière de s'impliquer a toujours été totalement différente. Je ne suis jamais allé aux manifestations où je n'ai jamais signé de pétition. Mon implication passe par mes gestes et mes projets. Le cas de Janice rejoint les conclusions de Belinda Ba. Les jeunes noirs peuvent être tout aussi impliqués dans différentes causes. Il faut aller un peu loin dans les formes de participation. Si on regarde juste des organisations très formalisées qui ont pignon sur rue, ce n'est pas là qu'on va les retrouver. Ils participent à la société sous des formes plus informelles. Vous écoutez « Être jeune et noir au Québec », un dossier de Suzanne Colperon et Maïssa Ferra, paru le 13 avril 2025 dans la presse. Pour une saine alimentation inclusive. Née à Montréal, Sandrine Stacco, 30 ans, est l'une des rares nutritionnistes noires au Québec. Ce constat peu reluisant la rend consciente des nombreux stéréotypes qui accablent les personnes noires au sujet de leur alimentation. Elle réalise, durant son passage à l'université, que les diététistes ont des connaissances culinaires limitées au régime santé européen ou nord-américain. Elle se donne alors pour mission de changer la perception de la saine alimentation afin qu'elle soit inclusive de toutes les cultures. Des gens sont venus vers moi. Ils se font dire qu'ils ne peuvent plus manger certains plats ou aliments associés à leur culture s'ils veulent être en santé, décrit la jeune femme. Les cuisines haïtiennes, antillaises ou africaines sont rarement représentées lorsqu'on parle de manger santé. Trop copieuses, trop grasses, trop de fritures. Voilà l'image projetée. Ça donne la perception que ce n'est pas nutritif, dit-elle. Ça pousse des gens à délaisser leur culture ou alors à baisser les bras lorsqu'ils veulent développer de bonnes habitudes alimentaires. Sandrine Stacco pense qu'il y a moyen de conseiller les gens en s'adaptant. Elle a créé une formation destinée aux nutritionnistes pour accroître les compétences culturelles de ses confrères et consoeurs. Sandrine Stacco s'est intéressée aux troubles alimentaires sous-diagnostiqués chez les communautés noires. Il y a certains biais chez les nutritionnistes et même chez les médecins par rapport aux problématiques de poids chez les femmes noires. Pour moi, c'est une mission culturelle. Le parcours d'Émilie Lafortune a des airs de conte de fées, mais se distingue de celui de bien des influenceurs. Ses publications teintées de joie de vivre, où elle présente ses recettes uniques, sont visionnées par des milliers d'internautes sur les réseaux sociaux. Elle est suivie par 1,2 million d'abonnés sur son compte Instagram, Émilie Cuisine. Elle est aussi l'auteur d'un livre de recettes et a lancé « Le goût de ça », une marque d'épices et de marinades typiquement haïtiennes. La femme de 31 ans, qui habite Longueuil, a pourtant appris à faire à manger par nécessité à l'âge de 8 ans dans son Haïti natal. Cuisiner n'était pas un petit hobby ludique. J'étais en mode survie. Ses frères et sœurs et elle grandissent sans leur père. Leur mère quitte le pays alors qu'ils sont encore enfants. On a dû être très autonome, très jeune. J'ai commencé à cuisiner pour toute la famille assez vite. Elle quitte Haïti pour l'Argentine à l'âge de 18 ans. C'était un choc culturel. Je ne connaissais personne, c'était très difficile. Cette fois-ci, la cuisine lui sert de refuge. Elle travaille dans plusieurs restaurants, développant ses connaissances en gastronomie. J'ai toujours voulu rehausser la gastronomie haïtienne avec de belles présentations, dit-elle. Pour moi, c'est une mission culturelle. Elle s'installe au Québec en 2021 et trouve un petit boulot dans une boutique de vêtements. Un travail monotone pour la jeune femme ambitieuse et pétillante. Dénicher un emploi à son image s'avère plutôt compliqué, se remémore-t-elle. J'ai donc commencé à publier des vidéos de mes recettes pour tuer le temps. Sa façon joviale et raffinée de présenter la cuisine haïtienne dans la vidéo lui rapporte plus de 15 000 mentions j'aime en une soirée. Nous sommes en novembre 2021, 5 mois après son arrivée au Québec. Les réseaux sociaux sont souvent critiqués, mais ils permettent de donner une visibilité inédite à plein d'influenceurs, d'artistes et d'entrepreneurs noirs, croit-elle. Ça crée des opportunités que nous ne pourrions pas avoir autrement dans certaines industries. Elle sent un boom d'entrepreneurs noirs qui créent des produits pour combler un vide. À force de ne pas trouver les produits dont tu as besoin, tu les crées toi-même. Si tu ne trouves pas d'emploi, tu lances ta compagnie. Si tu es éloigné de tes racines, tu ressens le devoir de promouvoir ta culture par ton entreprise ou dans tes projets. On n'est pas sorti du bois. Éduqués et impliqués, les jeunes noirs n'en sont pas moins toujours victimes de discrimination au Québec. Et le temps seul n'arrangera pas les choses, semble-t-il. Témoignage. Par crainte d'être ostracisés, les jeunes interviewés, à l'exception de Kemen Bantila Mavungu, ont demandé que leur nom de famille ne soit pas publié. Certains utilisent aussi un prénom fictif. Je peux nommer 5 incidents juste au secondaire. Ce n'est pas si rare. Pour Raven, étudiante à la maîtrise en neurosciences à l'Université de Montréal, la discrimination a toujours fait partie du décor. Originaire de la Tanzanie, elle a grandi dans les cantons de l'Est. Lorsque j'étais à l'école secondaire, il y avait les journées carrières. Moi et mon autre ami noir, on s'est fait dire qu'on était peut-être mieux de regarder dans les DEP que les DEC étaient moins pertinents pour nous, etc. Pourtant, Raven rêvait de médecine et brillait en sciences. J'ai dit « Une histoire de DEP, c'est intéressant, mais c'est pas pour moi. » Mais la conseillère scolaire insistait, elle a dit « Ok, mais il faudrait peut-être le considérer un peu plus, spécialement avec ta situation. » Une situation qu'elle semble avoir mal interprétée, estime Raven. Je pense que ça leur a donné une image que mes parents n'étaient pas très éduqués parce que je traduisais souvent pour eux aux rencontres parents-élèves. Raven fait partie des 83% de jeunes noirs au Québec qui disent avoir vécu de la discrimination selon le sondage Léger. Un chiffre qui ne surprend pas non plus Carmen, Jean-Christophe, Kemen et Sophie, dont les récits illustrent la persistance des biais dans plusieurs pans de la société québécoise, de l'école à l'hôpital. Vous écoutez « Être jeune et noir au Québec », un dossier de Suzanne Colpron et Maïssa Ferra, paru le 13 avril 2025 dans La Presse. Un système de santé inégal. Carmen, elle, a subi un traitement qui l'a profondément marquée. Aux prises avec des douleurs chroniques au dos, elle consulte plusieurs médecins. Le diagnostic est toujours le même. Sa poitrine est en cause. On lui recommande une réduction mammaire. J'ai trouvé ça étrange, car je n'étais pas en surpoids à l'époque. Je faisais du DD. Je ne voyais pas ça comme anormal. Elle suit tout de même la recommandation, mais quelques jours après l'opération, une plaie s'ouvre légèrement. Elle raconte qu'on la referme sans anesthésie. J'ai souffert énormément, j'ai enduré la douleur et pleuré en silence. son mal de dos persiste malgré tout. Un seul médecin a finalement décelé un problème musculaire. Carmen croit que le regard des médecins sur le poids et les courbes des femmes noires influence certains diagnostics. Selon elle, il y a cette idée que les femmes racisées doivent supporter la douleur. Jean-Christophe, lui, garde un souvenir amer de l'hôpital de Chicoutimi. Originaire d'Afrique, il y accompagne sa conjointe lors d'un accouchement compliqué. La froideur du personnel le frappe. Sa façon de s'adresser à nous, comme si on ne connaissait rien, mais aussi sans aucune chaleur ni bienveillance. Lorsqu'il pose des questions sur les coûts à prévoir, n'étant pas résident permanent, la médecin lui aurait répondu « C'est ton problème si tu veux laisser ton enfant mourir ». À l'époque, Jean-Christophe était étudiant étranger inscrit au doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC. Sophie, elle, raconte une expérience plus insidieuse. Depuis son arrivée au Québec, chaque fois qu'elle consulte, son poids est mentionné par les professionnels de la santé. Elle y voit un jugement influencé par la perception des corps noirs dans le système médical. Des obstacles dès l'école. Pour ces jeunes, la discrimination ne se limite pas aux soins de santé. Elle commence souvent sur les bancs d'école. Raven l'a vécu, mais elle n'est pas la seule. Gina Lafortune, professeure au département d'éducation et formation spécialisée à l'UQAM, rappelle que même au primaire, les enfants noirs perçoivent qu'ils sont plus souvent interpellés ou punis. Ça, ce n'est plus anecdotique quand c'est aussi généralisé. Il y a toujours beaucoup de déni par rapport à ces situations-là. L'orientation vers des parcours moins valorisés n'est pas un hasard, note-t-elle. Il y a des barrières très tôt, des attentes réduites et des mécanismes qui découragent plutôt qu'ils soutiennent. L'économie angle mort. Ce que révèle le sondage léger, c'est qu'au-delà de la discrimination, la situation économique des jeunes noirs est loin d'être reluisante. 49% des répondants déclarent un revenu familial annuel sous les 40 000 $, alors que plus de la moitié, 55%, détiennent un diplôme universitaire. Déborah Cherenfant, stratège en entrepreneuriat, constate « En matière d'objectifs pour les communautés noires, souvent, on parle de créer cette force économique, une richesse générationnelle. Mais ce qu'on constate avec ce sondage, c'est qu'il y a encore du travail à faire. » Si 18% des répondants disent bien connaître les occasions entrepreneuriales, 21% comprennent bien le fonctionnement du système financier. Pourtant, plusieurs s'endettent davantage que le groupe contrôle selon les données du sondage. J'ai envie de dire « on n'est pas sorti du bois », ajoute Madame Cherenfant. Un regard lucide. Kemen Bantila Mavungu, 20 ans, a immigré de la République démocratique du Congo à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, il étudie à l'université Bishop, joue au football et fait du théâtre. Il reconnaît que son intégration s'est bien passée, dit-il, mais il ne se fait pas d'illusions. Je suis optimiste, mais pas naïf. Kemen est bien conscient du regard que les autres posent sur lui. « Je suis une personne noire imposante qui mesure 1,96 mètres. Même si je viens avec toutes les bonnes intentions du monde, ça intimide certains. Il adapte donc ses comportements en conséquence pour éviter de se retrouver dans des situations à risque. Mais il garde espoir. Beaucoup de jeunes ont un groupe d'amis d'origine diverse. Ils ne grandiront pas, selon lui, dans l'idéologie du « nous contre eux ». Quand tu es un jeune à Montréal, tu parles un argot qui mélange plusieurs langues. « On a notre tierce culture montréalaise aussi », explique-t-il. Changer les règles du jeu. Pour Édouard Stacco, président du sommet Jeune Afro, il est temps de rompre avec l'idée que les choses vont se régler naturellement. Le temps ne fera pas son effet, dit-il. L'enfant immigrant noir, l'enfant de l'enfant immigrant noir et l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'immigrant noir. Sa perception n'est pas très différente. Fauniemi, directeur du Centre de recherche action sur les relations raciales, CRARR, appelle à un changement de cap. Si vraiment on veut apporter des changements concrets et obtenir des résultats plus durables, il faut porter plus d'attention à ces indicateurs économiques. Il est temps de peut-être faire les choses autrement. Les jeunes interrogés par la presse pour ce reportage ne manquent ni de talent ni d'ambition. Ce qui manque, selon eux, ce sont des systèmes équitables, des institutions inclusives et des décisions politiques courageuses. Raven, Kemen, Carmen, Jean-Christophe et Sophie témoignent chacun à leur manière d'un même constat. Plus ça change, plus il reste à faire. En savoir plus, source Statistique Canada, recensement 2021. 5,1%. Proportion de personnes noires vivant au Québec. Cela représente 422 405 personnes. 41%. Sur les 1,5 million de personnes noires vivant au Canada, 41% sont nées au pays. C'était « Être jeune et noir au Québec », un dossier de Suzanne Colperon et Maïssa Ferra, paru le 13 avril 2025 dans La Presse.
D'auteur à autrice, 40 années de tâtonnement, un texte d'Amélie Daou-Boisvert et Lucille Aumônier, paru le 10 avril 2025 dans La Gazette des femmes. Du débat à l'acceptation. Depuis 2022, l'appellation « autrice » a pris le pas sur « auteur » dans les médias du Québec. Comment en est-on arrivé là? Dans ce premier texte de deux, on en discute avec des témoins directs de 1980 à aujourd'hui. Avril 1983, la journaliste du Devoir Renée Rowan, dans sa chronique Féminin pluriel, répond à un lecteur agacé. Celui-ci lui reproche un excès de féminisme que trahit sa préférence pour le thème « auteur ». La reporter réplique « Il y a toujours un féminin possible ». Elle rappelle qu'autrice figure aussi dans le Grand Larousse, bien que plus ou très peu utilisé de nos jours. Avec le temps, on s'y habituera peut-être, ajoute-t-elle. Décédée en 2019, elle aurait soufflé 100 bougies cette année. Qu'aurait-elle pensé du passage, dans la dernière décennie, du mot « autrice » au vocabulaire usuel, au détriment d'auteur, en recul? Renée Rowan a été témoin au début des années 1980 du grand chantier de l'Office québécois de la langue française, OQLF, de féminisation des titres professionnels. Autrice avait été considérée à l'époque, mais ce n'est pas une forme qui avait été retenue, relate aujourd'hui Frédéric Gagné, conseiller linguistique à l'OQLF. Les linguistes avaient envisagé d'autres formes qui ont fait partie de l'histoire du français, comme « autoresse ». Finalement, c'est sur « auteur » que les spécialistes arrêtent leur choix. Pourquoi? Ce substantif féminisé commençait à pointer le bout de son nez dans les publications officielles et les journaux québécois. Le mouvement avait été lancé par des écrivaines féministes qui militait en sa faveur depuis des années, rappelle la linguiste et professeure associée à l'Université de Sherbrooke, Hélène Cajolet-Lagagnère. On trouve, dans les archives de la Presse et du Devoir, préservées à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, une poignée seulement d'occurrences du terme auteur en 1980, mais déjà plus de 100 en 1985. Et autrice, on le rencontre très peu dans les journaux des années 1980. Petite curiosité, une publicité du gouvernement du Québec pour le concours 1985-1986 de journalisme scientifique, publié dans Le Devoir, précise que le prix sera décerné à l'auteur ou l'autrice méritant. Chers amis, la forme féminine blesse l'oreille. En stage à Paris, en 1984, la journaliste Hélène de Billy en profite pour publier quelques chroniques ici, dans Le Devoir. L'une d'elles nous donne une des plus anciennes occurrences d'autrice dans nos médias. Hélène de Billy y interviewe l'essayiste Brigitte Ouvry-Vial et lui demande si elle doit la présenter comme auteur, auteure ou autrice, ce à quoi la principale intéressée répond, pragmatique, une femme qui écrit. La journaliste s'étonne elle-même d'avoir osé la question, dit-elle en entrevue. Consciente des différences France-Québec, elle tentait alors de ne pas trop imposer mon féminisme à la Québécoise, se souvient celle qui se désigne aujourd'hui comme autrice, puisque c'est l'usage. Une décennie plus tard, dans les années 1990 et jusqu'en 2015, c'est toujours auteur qui a la cote. La banque de données Eureka, qui recense les journaux, magazines et certaines émissions de radio et de télévision du Québec et du Canada francophone, montre une centaine de milliers d'occurrences d'auteurs entre 1995 et 2015, contre seulement une trentaine d'autrices. Ces quelques occurrences égarées d'autrices suscitent parfois de virulentes récriminations. Le courrier des lecteurs de la presse accueille en 1996 le ras-le-bol d'un habitant de Saint-Laurent qui écrit, non sans un certain paternalisme, « Chers amis, si professeurs et auteurs n'ont pas de féminin, ce n'est donc pas par sexisme, c'est tout simplement parce que la forme féminine blesse l'oreille. Pour vous en convaincre, dites à voix haute « Autrice et professeuse ». Alors, de grâce, faites-vous appeler enseignante et femme de lettres et, s'il vous plaît, arrêtez le massacre. En 1999, coup de tonnerre ou d'épée dans l'eau. Le petit Robert intègre « Autrice » à ses pages. Les journalistes s'en amusent et la presse titre « La petite Roberte ». Mais autrice ne prend pas. Hélène Cajolet, la gagnière, a co-dirigé la réalisation du dictionnaire Usito, un chantier qui voit le jour en 2013. Elle raconte que l'entrée « auteur » proposait au départ le féminin « auteure » accompagné d'un commentaire indiquant la rareté du terme « autrice ». Mais la fin des années 2010 marque un tournant. Un tournant d'auteur à autrice. En 2017, Suzanne Zacour et Michaël Lessard, interviewés dans notre second texte, publient un doublé, le manuel de grammaire non sexiste et inclusive et le collectif Dictionnaire critique du sexisme linguistique qui met à l'honneur le terme autrice, une première au Québec. C'est à cette période que l'équipe d'Usito retravaille l'entrée auteur-auteure pour refléter les usages, ajoutant « la forme autrice est parfois utilisée ». Dans les banques de données, les émissions, les documents en ligne, tranquillement, le mot « autrice » apparaissait, raconte Hélène Cajolet-Lagagnère. Même son de cloche, du côté de l'OQLF, l'Office a constaté vraiment à partir de la fin des années 2010 que le mot faisait un retour dans l'usage, dit Frédéric Gagné. L'Office a aussi reçu un certain nombre de demandes concernant son emploi dans le langage. Plusieurs écrivaines sautent alors le pas, comme Chloé Varin, autrice jeunesse, comptant une quarantaine d'ouvrages à son actif. Elle embrasse le terme parce qu'il comporte une connotation féministe qui lui parle, dit-elle. Mais elle n'assumait pas totalement au départ. Ça venait avec une charge que je devais défendre. Je voyais l'incompréhension et parfois même le malaise chez les gens. Et d'environ 150 mentions dans la presse canadienne francophone en 2018, autrice apparaît 4 700 fois en 2020. Cette progression rapide mène l'équipe d'Ouzito à faire passer autrice de « commentaire » à « vedette », dit Hélène Cajolet-Lagagnère. Le dictionnaire propose depuis 2020 l'entrée « auteur, auteure, autrice ». La linguiste précise que si, dans les prochaines années, son équipe constate la prééminence d'autrice sur « auteure », le dictionnaire pourrait lister les termes dans un ordre différent. Auteur, autrice, auteure. C'est vraiment notre objectif d'informer le lecteur par une mise à jour basée sur la réalité, conclut-elle. L'heure a peut-être sonné, puisque, dans nos médias, depuis 2022, autrice a désormais pris le pas sur auteure. Note d'histoire. Le terme autrice est apparu au 15e siècle. Il dérive du latin auctrix, un terme attesté depuis l'Antiquité tardive. L'Académie française bannit autrice de son dictionnaire au 17e siècle, mais il perdure discrètement dans les usages. Au siècle suivant, une lectrice écrit au Journal des Dames, une revue littéraire, et s'interroge sur l'inexistence d'un féminin pour auteur et éditeur. L'éditrice, Madame de Beaumère, lui répond en se revendiquant « autrice et éditrice », n'en déplaise aux messieurs de l'Académie. Elle propose même de féminiser tous les mots qui nous conviennent. Mais le terme « autrice » tomba dans l'oubli. Au XXe siècle, on forge même le néologisme « auteure » pour désigner des femmes de lettres. Nul doute que Madame de Beaumère aurait trouvé cette création amusante. C'était « D'auteur à autrice, 40 années de tâtonnement », un texte d'Amélie Daou-Boisvert et Lucie Lomonier, paru le 10 avril 2025 dans la Gazette des femmes.
On investit dans la santé de nos sols. Un texte d'Alexis Riopel paru le 19 avril 2025 dans Le Devoir. Des fois, je me fais traiter d'extraterrestre parce que je fais les choses différemment des autres. Mon grand-père, s'il avait vu mes champs, aurait dit « T'as oublié de labourer ». Renaud Péloquin conduit son camion à travers sa terre de 530 hectares à Sainte-Victoire-de-Sorel, en Montérégie. En ce début de printemps frisquet, la terre est encore gelée. À droite, on voit les vestiges d'un champ de maïs qui n'a pas été labouré à l'automne. À gauche, des herbes jaunies tassées par la neige, à travers lesquelles émergent quelques brins verts. M. Péloquin, un agriculteur de 8e génération, explique qu'il est comme un chef cuisinier chaque année. Il s'efforce d'améliorer sa recette pour rendre sa ferme plus résiliente, plus productive et plus écologique, notamment au chapitre des gaz à effet de serre, GES. Depuis près de 10 ans, il intègre peu à peu un nouveau type de rotation des cultures à la ferme, dont il est copropriétaire avec sa sœur et son beau-frère. L'agriculteur nous amène dans le champ de gauche.
c'est une parcelle d'engrais vert semée à la fin de l'été dernier. Un mélange de radis, de févrole, de pois fourragers, de raies grasses, de trèfle rouge, etc. Cette culture de couverture enrichit le sol en carbone et en azote, améliore sa structure et le protège du lessivage. M. Péloquin tire une longue racine de radis jauni. Le radis, c'est un très bon pompeux d'azote, souligne-t-il. L'engrais vert succédait à une récolte de blé d'automne, en juillet 2024. Cet été, je m'en viens en maïs, qui est ma plante la plus rentable. La céréale sera semée directement, sans labour préalable, ce qui protège la matière organique du sol. Grâce à la magie de l'engrais vert, M. Péloquin sera capable de réduire, facilement de moitié, son application d'engrais azoté de synthèse. Il entrevoit d'excellents rendements. En 2026, le soya prendra le relais dans ce champ, puis le cycle de 3 ans recommencera. On investit dans la santé de nos sols, explique l'agriculteur. Ça fait un bon 10 ans qu'on a commencé à petite échelle. Les champs où on a maintenu cette rotation-là, on voit qu'ils s'améliorent beaucoup. Ça convainc ma sœur, qui est comptable. Elle dit « on peut en faire plus ». Cette année, 60% des terres de la ferme de Sainte-Victoire obéiront à ce modèle de rotation. Pensez à la 9e génération. Au Québec, plus de la moitié des terres cultivées sont couvertes par des plantes ou des résidus végétaux en hiver. Le semis direct, sans labour, est cependant beaucoup moins commun. Les bénéfices écologiques de ces pratiques sont nombreux. Cela réduit l'érosion des sols, la surutilisation d'engrais et la pollution de l'eau. Par-dessus le marché, cela augmente la quantité de matière organique et donc de carbone dans le sol, ce qui atténue le réchauffement climatique. Pour quantifier ces bénéfices, la ferme de M. Péloquin participe d'ailleurs à une étude sur la valeur fertilisante des cultures de couverture. Renaud fait partie de ceux que j'appelle mes producteurs de cœur, parce qu'on peut être très demandant, explique Atina Kambouri, chercheuse à Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui mène ce projet dont les résultats seront connus dans quelques années. Il faut dire que M. Péloquin a des raisons de s'intéresser à la question climatique de près. En août 2024, lors du passage de la tempête Debby, il a reçu 200 mm de pluie en 24 heures. En 2022, il réalisait le bilan carbone de sa ferme grâce à l'aide du programme AgriClimat, financé par le gouvernement du Québec. Une surprise l'attendait. Plus de 60% de ses émissions de GES provenaient d'une réaction chimique survenant dans le sol quand on y applique des engrais. Dans un champ mal drainé et compacté, les excès d'azote peuvent se transformer en protoxyde d'azote, N2O, un gaz 300 fois plus puissant que le CO2 pour réchauffer l'atmosphère. Pour éviter ce problème, il faut éviter l'application excédentaire d'azote et favoriser l'oxygénation des sols. M. Péloquin s'y efforce. Il teste aussi des inhibiteurs d'azote, des molécules qui répartissent dans le temps le relâchement de l'azote contenu dans les engrais de synthèse. Les engrais verts peuvent également être bénéfiques. Les effets de ces gestes pro-climat sont toutefois difficiles à mesurer. Mesurer les émissions de N2O d'une terre de plus de 500 hectares, ce n'est pas du gâteau. Si bien que, pour l'instant, la ferme de Sainte-Victoire ne peut revendiquer qu'une petite réduction de son empreinte carbone, et celle-ci découle pour l'essentiel de l'élargissement de ses bandes riveraines. Aussi bien dire que, même pour un agriculteur passionné et bien informé, investi depuis une décennie, le défi du carbone est majeur. Heureusement, M. Péloquin récolte dans cette démarche des gains collatéraux. Il pense à long terme. Les 3 copropriétaires de l'exploitation agricole ont tous moins de 40 ans. la vision de la ferme de Sainte-Victoire, c'est de rendre l'entreprise la plus résiliente possible. C'est le legs qu'on veut laisser à la 9e génération. D'autres solutions. Un robot dans l'étable. Attention, ça sent fort, dit Renaud Péloquin lorsqu'on pénètre dans l'étable. Dès que les portes s'ouvrent, 220 veaux tournent la tête vers nous. Les jeunes bêtes passent 4 mois ici, où leur vie se résume essentiellement à manger, à se reposer et à engraisser. Quand les veaux atteignent un poids de 700 livres, ils prennent la route de l'abattoir. Le troupeau de M. Péloquin compte pour environ le tiers de son bilan carbone. La digestion des animaux, qui émet du méthane, la gestion des fumiers, la production de leur alimentation et le chauffage de l'étable y contribuent. Pour réduire ses émissions et ses frais de chauffage, l'agriculteur a fait installer un ordinateur qui, grâce à des mesures de température et de pression, optimise automatiquement la ventilation dans son étable. Avec ça, on a eu une grosse économie de propane, se réjouit-il. 10 kilomètres de bande riveraine. En début de printemps, la bande riveraine sort de sa dormance. Les arbustes préparent tranquillement leurs bourgeons. D'ici quelques semaines, fleurs et feuillages vont émerger au fil de ce petit ruisseau qui traverse la terre des Péloquins. Au Québec, la réglementation impose aux agriculteurs d'avoir des bandes riveraines le long de leurs cours d'eau. Celles-ci doivent déborder d'au moins 1 mètre dans le champ, au-dessus du talus. Elles servent à protéger les ruisseaux du ruissellement qui emporte des sédiments, des engrais et des pesticides. Les bandes riveraines procurent aussi des avantages aux agriculteurs. Elles attirent les pollinisateurs et empêchent l'érosion des sols. Tous les investissements que je mets dans mon sol, je veux les garder au champ, explique Renaud Péloquin, qui a décidé d'élargir ses bandes riveraines d'environ 5 mètres à partir de 2018. La transformation de ces 10 kilomètres de bandes riveraines, pour laquelle il a obtenu des subventions, est désormais achevée. Même s'il a perdu ainsi 6,5 hectares de terres cultivables, il ne le regrette pas le moins du monde. Je trouve ça beau. En plus, les 9570 arbustes plantés dans ces bandes riveraines absorbent 19 tonnes de CO2 par année, ce qui se soustrait au bilan carbone de sa ferme. C'était « On investit dans la santé de nos sols », un texte d'Alexis Riopel paru le 19 avril 2025 dans Le Devoir.
Cynthia Esserig veut changer la game pour les lesbiennes. Un texte de Ruby Pratka, paru le 25 avril 2025 dans le magazine Fugue. La directrice du Réseau des lesbiennes du Québec, RLQ, souhaite mobiliser la communauté sportive pour souligner la place des femmes queer ou lesbiennes dans le sport et dans la société au sens large, dans le cadre de la Journée de la visibilité lesbienne, JVL. Pendant l'année, il y a tellement de fois que c'est négatif quand on parle de la communauté. On parle du recul des droits, de la montée de la haine, tout ça, explique Cynthia Esserich. Mais la Journée de visibilité lesbienne, c'est un événement qui se veut positif pour donner du pouvoir à la population. Les célébrations de cette année, à l'espace événementiel 8 Queen à Griffintown, mettent le sport féminin à l'honneur, avec comme porte-parole la skateboarder olympique lesbienne Annie Guglia. Il y a plusieurs conférences et ateliers, une remise de prix aux pionnières sportives et un salon où d'aspirantes athlètes amateurs pourront découvrir des ligues sportives communautaires accueillantes. Selon Cynthia Esserich, la JVL est nécessaire parce que le manque de visibilité est le plus grand problème auquel fait face la communauté lesbienne québécoise. Quand la communauté est visible, elle est hypersexualisée, elle n'est pas prise au sérieux. On veut montrer que les personnes qui font partie de la communauté lesbienne existent, puis elles ne sont pas que pour le regard des hommes. De surcroît, dans le contexte politique actuel, elle craint que si on est invisible, il y aura encore plus de recul des droits. Déterminée à créer des espaces inclusifs pour la communauté lesbienne. Ancienne stagiaire au RLQ et titulaire d'un bac en sexologie, Cynthia Esserich est retournée y travailler quelques semaines avant le début de la pandémie de COVID-19. Avec ses deux collègues, elle s'est rapidement affairée à transférer toutes leurs activités en ligne. Organiser les célébrations de la JVL a aussi été une grande source de motivation pendant cette période. Le passage au virtuel a permis au RLQ de créer un espace de socialisation qui n'existait plus vraiment dans le monde hors ligne. Il n'y a pas de bar, de café, de librairie ou de lieu social spécifique aux lesbiennes à Montréal, observe Cynthia Esserich. Il y a un bar, Le Champ, sur le boulevard Saint-Laurent, qui a des soirées lesbiennes, mais ce n'est pas 100% lesbien. Sinon, il y a des soirées lesbiennes qui vont changer de bar en bar. C'est très éphémère. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des espaces qui sont à nous pour arrêter d'être constamment en alerte. En attendant l'ouverture d'un bar ou d'un café qui peut servir de point de repère communautaire, elle vise à créer l'espace dont elle rêve, encore de façon éphémère, avec les célébrations de la JVL. Défi motivant. Cynthia Esserich regarde la scène politique et économique actuelle avec appréhension. Si des partis de droite sont élus, il y aura encore plus de travail pour défendre nos communautés, puis on va avoir encore moins d'argent pour le faire. On a peur qu'il y ait du recul des droits pour nos populations et que nous n'ayons pas assez de financement pour être capables de le combattre. Après ça, c'est de l'épuisement, puis la fermeture de certaines organisations. Au bout de la ligne, les populations qui ont le plus besoin de services paieront le prix. On fait déjà beaucoup avec l'huile de coude dans le communautaire. Ce qui la motive par-dessus tout, ce sont les micro-moments où elle apprend que les programmes du RLQ ont amélioré la vie d'une personne. Quand quelqu'un nous dit « J'ai été capable de faire mon coming out parce que vous avez fait tel événement et je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. » Ça fait tellement plaisir de savoir que ce qu'on fait au quotidien a un impact réel dans la vie des gens. C'était « Cynthia Esserich veut changer la game pour les lesbiennes ». Un texte de Ruby Pratka paru le 25 avril 2025 dans le magazine Fugue.